won't go back!
What this means to women is such an insult.
On a fait tout ce qu'on a pu, finalement, aucune réponse en date d'aujourd'hui. Je refuse de mettre une date sur la fermeture de la maison de Sophia.
Bon vendredi. Les États-Unis se présentent comme un phare de la démocratie et un leader du monde libre. Mais aujourd'hui, le plus haut tribunal du pays a tranché. Le droit à l'avortement n'est pas protégé par la Constitution. Faut dire qu'actuellement, la Cour suprême est dominée par des juges conservateurs. Depuis 1973, une femme américaine pouvait décider de se faire avorter en toute légalité. Mais voilà que la décision de la Cour suprême a eu un effet immédiat. Plusieurs États ont déjà décidé d'interdire les avortements. Le président des États-Unis est en colère. Il parle d'une erreur historique.
It's cruel. In fact, the court laid out state laws criminalizing abortion that go back to the 1800s as rationale. The court literally taking America back 150 years. This is a sad day for the country, in my view.
L'avocate Sophie Gagnon, directrice générale de Juripop, est avec nous. Bonsoir, Sophie.
Bonsoir, Étienne.
Quelle est ta réaction là, face à cette décision là, aujourd'hui?
Ah, c'est scandaleux, même si on savait que ça s'en venait, parce qu'on se rappelle que le brouillon avait circulé publiquement. Mais c'est vraiment horrible là, de voir que vraiment la Cour suprême est politisée de la sorte et que, comme le président américain l'indique, il y a un retard en arrière pour ce qui est du droit des femmes à l'avortement aux États-Unis.
Sophie, lorsqu'un droit est obtenu, comme ça a été le cas en 1973, on peut revenir en arrière des décennies plus tard puis décider qu'un droit n'est plus un droit?
Bien, là se trouve toute la controverse. Donc, c'est une décision qui est une controverse non seulement sociale, sécuritaire pour la santé des femmes, mais aussi une controverse juridique, puis c'est ce que la minorité démocrate a dénoncé. C'est que la majorité républicaine, dans le fond, avançait très peu d'arguments pour justifier de renverser un précédent qui datait de plusieurs décennies. Pour la primauté du droit, il faut vraiment limiter à des cas exceptionnels de tels renversements. Et de l'avis de la minorité, les arguments sont nettement insuffisants, mais c'est la majorité qui a décidé là, de faire un tel renversement.
Mais là, ça va avoir un effet domino. Là, à quoi on peut s'attendre au plan juridique là, dans les différents États? Déjà, il y en a qui annoncent qu'ils l'interdisent.
Voilà, donc l'architecture juridique des États-Unis là, faisait en sorte que les États étaient contraints aux précédents établis par Roe v. Wade et leurs lois qui cherchaient à interdire ou à limiter l'avortement étaient sans cesse contestées au regard de Roe v. Wade. Maintenant que cette protection-là a été renversée, qu'elle est tombée, bien, les États ont la voie libre pour réglementer comme ils le souhaitent l'avortement et comme de fait, il y a des lois, il y a le Missouri qui a annoncé aujourd'hui que sa loi allait entrer en vigueur rapidement. Et il y a d'autres États qui ont des lois qu'on appelle des trigger laws, donc des lois à effet déclencheur et qui vont interdire l'avortement dans un délai de 30 jours là, pour plusieurs États.
Donc, il y a quand même un espoir dans certains États américains là, que ça n'ait pas lieu, là, que ça ne soit pas appliqué, là, cette décision-là, aujourd'hui, là.
Oui, évidemment. Donc, l'effet de la décision d'aujourd'hui, ce n'est pas d'interdire ou de criminaliser l'avortement aux États-Unis. C'est tout simplement que les États ont la voie libre et certains États, surtout les États démocrates, ne vont pas légiférer pour le restreindre. Puis, il faut savoir que le terrain s'organisait. Là. Ça fait des décennies, même dans les États où l'avortement est permis, il n'est pas toujours accessible. Et puis, donc, le combat désormais, ce ne sera pas un combat juridique, ça va être un combat de terrain, oui, d'organisation, pour qu'il y ait des réseaux qui se fassent aller pour que les femmes puissent se faire avorter de manière sécuritaire.
Au Canada, il y en a qui craignent que, justement, on voit un tel recul. Est-ce que ça se pourrait?
C'est peu probable, là, du moins tant que la Cour suprême restera une institution qui est indépendante. Les précédents de la Cour suprême se renversent beaucoup moins facilement au Canada qu'aux États-Unis. Donc, d'un point de vue juridique, pour nos précédents criminels, je ne suis pas inquiète. Mais le portrait n'est pas rose pour autant au Canada. L'accès est inégal à travers le pays et au sein d'une même province. Je peux entre autres penser au Nouveau-Brunswick où l'accès est à ce point difficile que l'Association canadienne des libertés civiles a récemment déposé une poursuite contre le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Alors, les tribunaux ici là, se font aller pour faire valoir le droit à l'avortement.
À d'autres niveaux. Sophie Gagnon, merci beaucoup d'avoir été là ce soir.
Merci, Étienne.
Où c'est qu'on va aller, nous autres? Dans la rue? On sort de la rue, vous voulez nous remettre dans la rue?
Non, moi, je peux pas aller dans une place mixte.
Chez nous maintenant, vous entendez cette femme qui lançait un cri du cœur il y a 2 mois, une locataire de la maison de Sophie menacée de fermeture, même si c'est la seule ressource d'hébergement pour femmes en situation d'itinérance des Laurentides. C'est Louis-Philippe Bourdeau qui nous rapportait cette histoire. Bien, aujourd'hui, bien, rien n'est réglé et plus que jamais, le temps de cette ressource d'aide pour femmes est compté.
Une belle salle à manger, c'est la salle de rencontre où on met les notes. On met des petites photos quand on fait des activités ensemble.
Comment ça va 2 mois plus tard?
On a fait des levées de fonds, on a fait une friperie qui a eu beaucoup de succès. On a fait un concert bénéfice à St. James à Montréal. On a travaillé très fort pour avoir 30 000 $ de dons. On respire un petit peu plus, mais la maison n'est pas sauvée. On a besoin de savoir sur le long terme. On ne peut pas vivre sur « OK, là, on va tenir 2 mois ».
C'est du 7 jours sur 7 pour toi ou…
Pour moi, oui.
Bénévolement.
Oui. On a des réunions d'hébergement toutes les 2 semaines avec les femmes. On prend le temps de leur expliquer où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait. C'est une charge qui est quand même plus grande, d'où la paperasse à faire et de maintenir nos services. Mais notre mission première, il faut qu'on y réponde. C'est ça notre boulot. C'est la même équipe qu'il y a 2 mois. Elles sont toujours motivées, mais elles aussi, elles ont besoin de réponses.
Depuis notre premier passage, des échanges ont eu lieu entre la maison de Sophia et le bureau du ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman. Mais y aura-t-il, oui ou non, un budget discrétionnaire pour sauver la ressource? Eh bien, les intervenantes l'ignorent encore.
On a écrit un budget, on a fait tout ce qu'on a pu, on a passé des heures bénévoles avec les filles à vraiment essayer de faire des belles choses et puis finalement, aucune réponse en date d'aujourd'hui.
Pourquoi les organismes pour les femmes ne sont pas entendus en sachant la pertinence de la mission, en sachant la problématique au niveau de la clientèle en ce moment qui est grandissante?
Les femmes qui ne peuvent pas aller en logement, on ne nous a pas proposé de les mettre dans d'autres organismes. Il n'y a pas de place, il n'y a pas d'autres organismes pour elles.
Au cabinet du ministre, on me répond ceci. Ils ont été et sont toujours à la recherche active de solutions pour éviter un bris de service. Il importe de mentionner qu'ils ont rencontré plusieurs difficultés importantes depuis la création de l'organisme en 2014. Le bureau du ministre fait ici référence, entre autres, à des enjeux de reddition de comptes et de gouvernance. Des enjeux qui sont choses du passé, selon l'organisme.
On fait tout ce qu'on peut, on se rend compte qu'on est très transparent par rapport à d'autres organismes.
D'ailleurs, un courriel consulté par Nouveau Info, datant du 10 juin dernier et envoyé par le 6 des Laurentides, indique que les plus récentes éditions sont conformes et que le 6 n'a pas d'autres questions à cet égard pour l'instant.
S'il y a quelque chose qui fait que non, la maison de Sophia n'a plus lieu d'être, mais expliquez-le-nous. On va rectifier le tir, par contre. Il n'y a pas une personne autour de moi qui m'a dit que ça n'en valait pas la peine. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les gens mettre leurs mains dans leur poche, tout simplement. Et on attend qu'on meure.
On se dit peut-être avec l'approche des élections qu'on va avoir une écoute peut-être un peu plus attentive et que les femmes vont revenir au premier plan. Je refuse de mettre une date, en fait, sur la fermeture de la maison de Sophia. Je veux pas que ça arrive. On trouvera d'autres personnes pour nous aider. On va continuer. C'est juste que c'est épuisant. On est brûlés.
24 juin, c'est la fête nationale du Québec et les gens se rassemblent enfin un peu partout après 2 ans de pandémie. Depuis hier, les festivités battent leur plein et le beau temps vient agrémenter cette journée. Anaïs a suivi ça pour nous aujourd'hui. Bonsoir, Anaïs.
Bonsoir, Étienne.
Et ça se poursuit d'ailleurs là, autour de toi en ce moment.
Ben oui, je me trouve au défilé stationnaire. C'est sur un tronçon du boulevard Maisonneuve à Montréal. Et l'ambiance est super agréable. C'est calme, mais les gens sont heureux. Et il y a plusieurs stations. Là, derrière moi, vous pouvez voir des gens qui pêchent des livres. J'ai parlé à la metteur en scène de cet événement qui me disait que hier, malgré la pluie, il y a eu entre 4 000 et 5 000 personnes. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Ouais. Et si vous êtes du côté de Laval, à 20h30, il y a un grand spectacle. On parle d'artistes comme Hubert Lenoir, Les Louanges, Lisa Leblanc, également par fête de quartier aussi partout à Montréal.
Et tu as aussi assisté à une fête dans Montréal-Nord. De... On va aller voir ta capsule.
Exactement.
Justement, une fête de la Saint-Jean.
Le festival, c'est un événement afin de célébrer la Saint-Jean, mais juste en se réappropriant l'identité nord-montréalaise.
souvent le secteur nord-est, il est beaucoup plus éloigné, en fait, du reste de Montréal-Nord. Donc, d'être vraiment au cœur de ce secteur-là, d'aller vers les gens, je pense que c'est ça qui fait plaisir à la population.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se retrouvent pas dans la Saint-Jean classique. Puis ici, il y a quelque chose qui est urbain, il y a quelque chose qui est jeune, il y a quelque chose qui est du quartier, que les gens se retrouvent énormément.
Je suis nouvelle dans le quartier, je voulais connaître la communauté, je voulais m'impliquer pour voir la richesse culturelle qui se trouve, puis aussi fêter la Saint-Jean, mais avec des choses qui nous ressemblent.
Puis moi, j'aime ça, aider le monde.
Nous faisons la parade, mais parallèlement, il y a du porte-à-porte qui se fait en distribuant les plats. Parce que non seulement, c'est pas tout le monde qui a cette mobilité comme vous et moi, de se déplacer puis d'aller chercher ses plats, mais c'est pour créer ce lien pour les personnes peut-être plus timides ou qui n'osent pas. Donc, ouais, ça, c'est ce que je dirais le plus incroyable afin de créer le lien.
Il n'y avait pas de festivités, tout était annulé. On savait aussi que Montréal-Nord était le quartier le plus touché, où est-ce que les gens vivaient beaucoup d'isolement, en fait, et de détresse. Donc, pour nous, c'était important que dans le cadre de cette pandémie-là, on puisse un peu venir apaiser les souffrances des gens.
Autant on va avoir du folklore québécois, autant on va avoir du folklore haïtien, autant on va avoir un peu plus de musique arabe, et ainsi de suite. Fait qu'on mélange tout ça, puis on se dit, ben c'est un peu ça. La Saint-Jean québécoise aujourd'hui.
Évidemment, les réactions sont nombreuses après cette décision historique sur l'avortement aux États-Unis. Même ici au Canada, c'est une décision qui choque le chef du NPD, Jack Meet Singh, que j'accueille à l'instant. Bonsoir, M. Singh.
Bonsoir.
Comment vous accueillez la décision de la Cour suprême américaine?
C'est horrible. C'est une attaque contre les droits de la personne, les droits fondamentaux et particulièrement une attaque contre les femmes. C'est inexcusable qu'on ait une décision maintenant aux États-Unis où les femmes ne peuvent pas avoir accès aux services d'avortement. Quelque chose qui est fondamental. Et ça veut dire aussi que ça n'arrête pas les avortements, ça arrête les avortements sécuritaires. Donc ça va endommager, menacer les femmes et c'est vraiment quelque chose d'horrible. Ça nous rappelle ici au Canada l'importance d'être toujours vigilant pour défendre les droits de la personne, particulièrement les droits des femmes. Et en particulier, au Canada, on doit défendre l'accès aux ces droits. Parce qu'au Canada, on a un problème d'accès pour plusieurs personnes à travers le pays, dans les communautés rurales. Et c'est tellement difficile d'avoir accès aux services d'avortement. Même dans les provinces, il y a des provinces à travers le pays où les services d'avortement ne sont pas bien financés. Et c'est difficile à avoir accès.
En même temps, depuis quelques mois, vous avez une alliance avec le Parti libéral, mais cet accès aux cliniques d'avortement faisait pas partie des priorités de l'entente, là.
Ça, c'est une décision du gouvernement libéral. On a travaillé tellement fort, on a se bat pour les gens, pour avoir quelque chose comme les soins dentaires. Donc, ça veut dire, à la fin de cette année, avant de la fin de cette année, les enfants de 12 ans et moins vont avoir les soins dentaires gratuits. On a lutté contre le gouvernement pour avoir ça depuis longtemps. Il y a un an, le gouvernement a travaillé avec les conservateurs pour voter contre cette idée. Et maintenant, on a obtenu cette victoire pour les gens. Mais ça ne dit pas qu'on va arrêter de se battre pour les gens. On va continuer de mettre la pression sur le gouvernement. L'entente nous donne quelques éléments qu'on a réussi à obtenir, mais ça reste beaucoup de travail à faire pour s'assurer que les gens ont l'aide qu'ils ont besoin.
Vous êtes à Montréal pour la fête nationale. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux Québécois qui ont peur justement que leur culture, leur langue soit menacée?
Je comprends cette peur. C'est une peur basée sur les chiffres. C'est tellement difficile d'être une nation française, une nation québécoise. Dans l'Amérique du Nord, c'est tellement difficile, je comprends ça. Et je sais pourquoi, au niveau fédéral, je continue de mettre les efforts pour augmenter l'investissement fédéral dans la francisation, pour aider les nouveaux arrivants à apprendre le français. C'est quelque chose de vraiment important. Les nouveaux arrivants sont des grands contributeurs dans notre société et ils ont besoin d'aide pour intégrer, pour participer et pour contribuer. Et c'est notre responsabilité de les soigner et d'offrir des services.
Mais je comprends d'immigration, mais je vais vous relancer là-dessus. Vous parlez d'immigration. Est-ce que vous êtes en faveur pour que le Québec obtienne plus de pouvoir en immigration, comme le demande François Legault, là?
Le Québec a une grande montante de pouvoir et je suis d'accord avec le pouvoir qui existe. Le gouvernement fédéral a aussi le pouvoir et je pense que le système comme il est bon. Mais ce qu'on doit faire, c'est de mettre plus d'emphase sur les investissements dans la francisation et les outils pour aider les nouveaux arrivants pour intégrer, parce qu'ils veulent intégrer, mais on a besoin de des meilleurs services d'intégration, des meilleurs programmes pour les aider.
C'est très clair. Bien, merci beaucoup, Jack Milsing, d'avoir été là ce soir.
Merci.
À bientôt. Maintenant, la crise du logement. La semaine prochaine, ce sera le 1er juillet, et partout au Québec, on risque d'avoir un nombre record de gens sans logis, sans toit, et ça risque d'être éprouvant à Granby, où seulement 0,1 % des logements sur le marché sont vides. Le pire taux d'inoccupation au Québec. On va en parler avec sa mairesse Julie Bourdon. Bonsoir, Mme Bourdon.
Bonsoir.
Chez vous, là, c'est vraiment dramatique et c'est emblématique un peu de ce qui se vit ailleurs au Québec également. Comment est-ce qu'on s'est rendu là?
Bien, écoutez, c'est vraiment multifacteur. On a moins de logements disponibles. Les coûts des logements sont à la hausse aussi. On est une région qui attire beaucoup. Donc, c'est pour ça vraiment, il y a vraiment différentes raisons qui ont fait qu'on est arrivé à une crise du logement. Mais une chose à savoir, c'est que vraiment, on s'est mis en action. Donc, on a travaillé quand même en amont pour mettre en place tout d'abord un comité qui travaille avec des élus municipaux, la ville, l'OMH et tout, pour arriver justement à des solutions.
Oui, et bien, dans les solutions, une solution assez originale, vous proposez, vous permettez des mini-maisons dans les cours des gens, c'est ça?
Oui, effectivement. En fait, c'est une nouvelle réglementation qui est là depuis cet automne. Donc, il y a maintenant la possibilité pour des gens de se construire des mini-maisons dans leur cour arrière. Bien sûr, il faut qu'ils soient branchés au service, donc à l'égout, à l'aqueduc. Mais ça permet une certaine densification, puis ça permet aussi d'avoir plus de logements, peut-être rapidement, quelqu'un qui voudrait garder son parent chez eux et qui ne pourrait pas se construire une bigénération pourrait avoir, par exemple, son parent-là.
Oui.
Donc, pour des travailleurs aussi. Donc, vraiment, c'est une solution.
Mais évidemment,
c'est
une des solutions. Mais à court terme, ça va être difficile. À quoi ça va ressembler la semaine prochaine à Granby avec ce 1er juillet qui arrive, là?
Bien, une chose à savoir, c'est qu'on a un service d'aide au logement. Donc, on a une intervenante qui travaille, vraiment, qui reçoit les appels des gens. Donc, on essaie de les placer, mais bien évidemment, c'est pas évident. Donc, on regarde avec d'autres régions. Il y a des possibilités, certaines personnes qui puissent changer de région. Donc, on est vraiment là-dessus à temps plein. On a peut-être une cinquantaine de familles. Et chose à savoir aussi, c'est pas juste des personnes vulnérables qui se retrouvent sans logement. On a des familles qui seraient prêtes à payer 1 500 par mois et qui ne se trouvent pas de logement, et ça rend ces gens-là vulnérables aussi.
Donc, il faut construire davantage. C'est ça le message que vous envoyez à M. Legault, notamment, encourager la construction peut-être de davantage de logements?
Bien, en fait, nous, à Granby, on a déposé des demandes pour au niveau du PHAQ, donc le programme d'habitation abordable du Québec. Donc, une demande de 118 logements. J'espère avoir des nouvelles la semaine prochaine. Mais ce nouveau programme-là permettrait justement de la construction beaucoup plus rapide, dans des délais plus rapidement et des logements abordables pour les gens.
On verra dans les prochains mois ou la semaine prochaine comment ça va se conclure, tout ça. Mais une cinquantaine de familles chez vous, vous dites. Donc, en tout cas, Mme Bourdon, on se reparlera sur la suite des choses. Merci d'avoir été là.
Merci, bonsoir.
Maintenant, avec la fin des classes, c'est officiellement la saison des vacances qui commence. Mais malgré l'ouverture des frontières et l'allègement des mesures sanitaires, plusieurs vont choisir les campings du Québec pour leurs vacances. Mais les prix de l'essence viennent leur jouer des mauvais tours. Fanny Lachance-Paquette est allée à la rencontre de campeurs à Bromont.
Comment ça s'annonce cet été de camping?
Ça s'annonce un peu comme l'année passée. L'année passée, c'était fou à cause de la pandémie. Ça a été la plus grosse année enregistrée là, depuis l'ouverture, je pense, du camping. Là.
La fin des classes, ça signifie l'envoi de la très haute saison. Plus d'école, ça veut dire plus de liberté généralement pour faire du camping.
C'est juillet, août, c'est presque complet. Là.
Donc, difficile de réserver à ce temps-ci de l'année.
Oui, mais les gens le savent. Depuis janvier que ça sonne sans arrêt, fait que les gens sont au courant.
On parle beaucoup du prix de l'essence, mais comme ça a changé récemment puis que les réservations sont faites depuis janvier, ça a peut-être eu moins d'impact?
Les gens, ce qu'ils me disent beaucoup, c'est on n'ira peut-être pas au Saguenay, on n'ira pas à Toronto. Ils vont pas s'éloigner, justement, ils vont rester un peu plus proches là, de leur résidence.
Les campeurs québécois, à part pendant la période de vacances, on ne va pas très loin. Donc, on ne s'éloigne pas, on va dans des régions limitrophes.
Et nous autres, on est à 45-50 minutes d'ici.
Ça a un petit impact, mais pas tant. Là, c'est une activité qu'on fait en famille, fait qu'on décide de couper ailleurs pour faire cette activité-là.
On va plus proche, oui.
Ça coûte combien, à peu près, là, mettre de l'essence dans un véhicule comme le vôtre?
450. Ça fait un petit peu mal.
Oui.
Mais ça vaut la peine.
On se ferme les yeux, puis on se bouche les oreilles, puis on passe à d'autres choses.
Plus voyageur, mais je pense qu'on va être saisonnier le restant de la saison cette année.
Ça, c'est une chose qu'on a remarqué à cause du prix de l'essence. Les gens veulent être stationnaires. Fait que là, moi, j'ai plein de demandes là, pour être saisonnier, mais j'ai plus de place. Fait que j'ai loué au mois, c'est le mieux que je peux faire.
Ce sont qui les gens qui font du camping? Est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux campeurs?
Plein. Plein. C'est fou. C'est vraiment un peu l'image là, des campeurs qu'on a, là, l'espèce de préjugé campeur. Là. Non, maintenant, c'est vraiment les jeunes familles. Ici, on est à Bromont, fait que beaucoup d'amateurs de vélo de montagne, de sports de plein air.
Donc, des gens qui ont acheté un premier VR... pour la première fois, un premier équipement. Alors, ça, c'est une nouvelle clientèle qu'on a vu arriver dans les terrains de camping, principalement à cause de la pandémie. Maintenant, il faut garder ces gens-là dans le réseau.
Sur la scène internationale, après des semaines de lutte féroce, les troupes ukrainiennes vont se retirer d'une ville assiégée de la ville de Severodonetsk, dans l'est du pays. Les Ukrainiens veulent éviter d'être encerclés, annoncer un gouverneur régional. La ville a été la cible de bombardements incessants de l'armée russe dans les dernières semaines. Les soldats ukrainiens ont d'abord résisté, mais ont dû se replier dans une usine aux limites de la ville. Et le prince Charles a inauguré au Rwanda la 26e réunion des dirigeants des pays du Commonwealth en faisant l'éloge du Canada. Il a exhorté les participants à tirer des leçons des efforts de réconciliation avec les Autochtones. Il a ajouté que sa femme et lui ont été profondément touchés le mois dernier lors de leur séjour au Canada par les témoignages d'Autochtones et de non-Autochtones. Justin Trudeau, lui, a tenu une série de réunions à huis clos pour tenter de rallier les pays du Commonwealth aux objectifs climatiques du Canada. Voilà, c'était le fil 17h30 de ce 24 juin. Je vous attends à 22h. On aura davantage de réactions sur cette décision sur l'avortement aux États-Unis. Manquez pas ça. En attendant, bon souper. À plus tard.